Chapitre 30. Wanda Seldon rajusta la ceinture élastique de son unicombi, la resserrant légèrement au milieu. Armée d'une binette, elle s'attaqua aux mauvaises herbes qui avaient envahi son petit jardin d'agrément devant le bâtiment de psychohistoire à Strilling. D'habitude, Wanda passait la majeure partie de son temps dans son bureau, penchée sur son premier radiant. Elle trouvait l'apaisement dans l'élégance de sa précision statistique. Les équations invariables, avec quelque chose de rassurant dans cet empire devenu fou. Mais quand le souvenir de son père, sa mère et sa petite sœur adorée devenaient trop pénibles à supporter, quand ses recherches ne parvenaient pas à lui faire oublier les pertes cruelles subies si récemment, Wanda se retrouvait invariablement ici, dans le jardin, à sarcler le sol terraformé, comme si faire pousser des plantes pouvait, si peu que ce soit, soulager sa douleur. Depuis la mort de son père un mois plus tôt et la disparition de Manella et de Bélis, Wanda, pourtant déjà mince, s'était mise à maigrir. Alors que, quelques mois plus tôt, Harry Seldon se serait inquiété de la perte d'appétit de sa petite fille chérie, aveuglé par le chagrin, il ne semblait même pas l'avoir remarqué. Un profond changement s'était opéré en Harry et Wanda Seldon, et chez les quelques survivants du projet de psychohistoire. Harry semblait avoir renoncé. Il passait le plus clair de son temps assis dans un fauteuil au solarium de Strilling, à contempler le domaine universitaire, réchauffé par les lampes éclatantes du dôme. De temps à autre, des collaborateurs du projet informaient Wanda que le garde du corps de son grand-père, un certain Stettin Palver, le harcelait pour qu'il fasse un tour sous le dôme, ou accepte de discuter des orientations futures du projet. Wanda s'isolait de plus en plus dans l'étude des équations fascinantes du premier radiant. Elle commençait à voir se concrétiser ce que son grand-père, au prix de tant d'efforts, avait cherché à obtenir. Et il avait raison. Les encyclopédistes devraient s'établir sur Terminus. Ils constitueraient la fondation. C'est dans la section 33A2D17 que Wanda voyait ce que Seldon évoquait sous le nom de seconde fondation. Une autre fondation. Secrète, celle-ci. Mais comment avancer? Sans l'actif intérêt de Seldon, elle était incapable de déterminer la méthode adéquate. Et si profonde était la blessure causée par la destruction de sa famille, qu'elle doutait d'avoir jamais la force d'y parvenir. Les membres du projet proprement dit, la petite cinquantaine d'âmes endurcies qui résistaient encore, poursuivaient leur travail du mieux possible. C'était en majorité des encyclopédistes qui cherchaient les sources à répertorier et à copier en vue de leur installation sur Terminus, en espérant toujours que s'ouvrent à nouveau les portes de la bibliothèque galactique. Pour l'heure, seule la foi les motivait. Le professeur Seldon avait perdu son bureau particulier à la bibliothèque. Aussi, les perspectives de voir un autre membre du projet obtenir des privilèges d'accès aux informations étaient-elles bien minces. Les autres membres du projet, en dehors des encyclopédistes, étaient des historiens analystes et des mathématiciens. Les historiens interprétaient les événements présents et passés, puis transmettaient le fruit de leurs travaux aux mathématiciens qui, à leur tour, intégraient ces éléments à la grande équation psychohistorique. C'était un labeur ingrat et long. De nombreux chercheurs avaient quitté le projet car les gratifications étaient rares. Les psychohistoriens étaient en butte à de nombreuses plaisanteries sur Trantor et les fonds limités avaient contraint Seldon à pratiquer des réductions de salaire radicales. Mais la présence constante et rassurante d'Harry Seldon avait jusqu'ici compensé les difficiles conditions de travail au sein du projet. Les chercheurs qui avaient choisi de continuer l'avaient fait sans aucun doute par respect et par dévotion pour le professeur Seldon. « À présent, » songeait avec amertume Wanda Seldon, « quelles raisons ont-ils encore de rester ?» Une brise légère rabattit sur ses yeux une mèche de cheveux blonds. Elle la repoussa négligemment et continua de biner les mauvaises herbes. « Mademoiselle Seldon, pouvez-vous me consacrer quelques instants ?» Wanda se retourna et leva les yeux. Un jeune homme, elle lui donna à peine plus de 20 ans, se tenait dans l'allée de gravier derrière elle. Elle décela immédiatement chez lui une force et une intelligence redoutables. Son grand-père avait bien choisi. « Je vous reconnais. Vous êtes le garde du corps de mon grand-père, n'est-ce pas, Stettin Palver, je crois ?
Oui, c'est exact, mademoiselle Seldon, dit Palver, et ses joues s'empourprèrent légèrement, ravi qu'une aussi jolie jeune fille ait pu simplement le remarquer.
Mademoiselle Seldon, c'est de votre grand-père que j'aimerais vous entretenir. Il m'inquiète beaucoup. Nous devons faire quelque chose.
Quoi, monsieur Palver ?
Je suis désemparé.
Depuis que mon père...
Elle déglutit avec peine, comme si elle éprouvait de soudaines difficultés à parler.
Depuis que mon père est mort et que ma mère et ma sœur ont disparu, c'est tout juste si j'arrive à le tirer du lit le matin. Et pour tout vous avouer, moi aussi, je suis profondément affecté. Vous comprenez, n'est-ce pas ?
Elle le regarda dans les yeux et vit qu'il comprenait.
Mademoiselle Seldon, dit Palver d'une voix douce, je compatis sincèrement à vos pertes cruelles. Mais vous et le professeur Seldon, vous êtes vivant. Et vous devez continuer de travailler à la psychohistoire.
Le professeur me donne l'impression d'avoir renoncé. J'espérais que peut-être vous, ou vous et moi, pourrions trouver un moyen de lui rendre espoir. Enfin, vous voyez, une raison de poursuivre.
Ah, monsieur Palver, pensa Vanda. Grand-père n'a peut-être pas tort. Je me demande s'il y a vraiment des raisons de poursuivre.
Mais à la place, elle dit « Je suis désolé, monsieur Palver. Je n'ai vraiment pas d'idée. » Elle tapa le sol avec sa binette. « Et maintenant, comme vous pouvez le constater, je dois continuer à arracher ces satanées mauvaises herbes. »
« Je crois que votre grand-père s'est trompé. Je suis même convaincu qu'il y a une raison de poursuivre. À nous de la trouver. »
Ces paroles la frappèrent. Comment avait-il deviné ses pensées ? À moins que...
« Vous savez lire et forcer les esprits,
n'est-ce pas ? » demanda-t-elle en retenant son souffle, comme si elle redoutait la réponse de Palver.
« Oui, absolument. » répondit le jeune homme.
Depuis toujours, je crois. En tout cas, je n'ai pas souvenance d'avoir jamais fait autrement. La moitié du temps, je n'en ai même pas conscience. Je sais ce que pensent ou ce que viennent de penser les gens, c'est tout. Parfois, poursuivit-il, encouragé par la compréhension qu'il sentait chez Vanda, je détecte des éclairs émanant de quelqu'un d'autre. Malheureusement, cela se passe toujours au milieu d'une foule, ce qui m'empêche de localiser l'émetteur. Mais je sais qu'il y en a d'autres comme moi. Comme nous.
Vanda lui saisit la main, tout excitée, oubliant sans regret ses outils de jardin.
« Est-ce que vous vous rendez compte de ce que cela signifie, pour bon papa, pour la psychohistoire ? Un seul d'entre nous peut déjà faire tant de choses. Imaginez ce qu'à deux !»
Vanda prit la direction du bâtiment de psychohistoire, laissant Palver planté dans l'allée. Presque arrivée à l'entrée, elle s'arrêta, se retourna.
« Venez, monsieur Palver, il faut en informer mon grand-père, » dit-elle sans ouvrir la bouche.
« Oui, je suppose que vous avez raison, » répondit Palver en la rejoignant.